France Culture.
Et le journal est présenté par Servane de Pastre. Bonjour Servane.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. 6 cas de peste porcine ont été détectés à Barcelone sur des sangliers. La maladie est extrêmement contagieuse. Les exportations de porc ont été suspendues. Le pape se rend au Liban cet après-midi, deuxième étape de son voyage après la Turquie, où il a lancé ces derniers jours un appel à l'unité des chrétiens. On revient sur ce déplacement avec notre invité. Et puis c'est le dernier jour de la collecte hivernale de la Banque alimentaire aujourd'hui. Depuis vendredi, plus 200 000 bénévoles sont mobilisés dans toute la France. C'est une première depuis 30 ans en Espagne. 6 cas de peste porcine africaine ont été détectés près de Barcelone sur des sangliers morts. Le pays, premier producteur de porc sur le continent européen, a suspendu ses exportations vers l'extérieur de l'Union européenne. Et à Barcelone, des mesures ont été prises pour éviter toute contagion, Henri de la Guérie.
C'est un contre-la-montre qui a commencé près de Barcelone depuis hier. Il est interdit de se promener ou de réaliser la moindre activité dans les parcs naturels situés dans un rayon de 20 km autour du premier foyer de peste porcine africaine détecté vendredi. Le virus est très contagieux et le ministre catalan de l'Agriculture, Oscar Ordeig, veut tout faire pour éviter une transmission du sanglier vers le porc.
Notre priorité numéro un, c'est de blinder ce rayon de 20 km pour éviter que la maladie ne sorte à l'extérieur. C'est ce qui pourrait nous arriver de pire. La maladie peut se répandre avec une voiture, un vélo ou en marchant sur de la matière contaminée par un animal.
38 exploitations porcines près de Barcelone sont confinées. Or, c'est un secteur économique vital pour la Catalogne. La région représente à elle seule la moitié de la production de viande porcine d'Espagne. Ce virus, qui n'est pas transmissible à l'homme, touche exclusivement les porcs et les sangliers. Sa mortalité peut atteindre 100%. Pour Vicens Enrique, expert du secteur au micro de TV13, le virus est sans doute arrivé en avion.
Notre hypothèse est celle d'un virus qui voyage dans un sandwich. Quelqu'un en transit chez nous qui voyageait avec de la charcuterie porteuse du virus.
La maladie n'a jamais été détectée en France, mais il est recommandé aux voyageurs de ne pas ramener de produits d'origine porcine provenant d'un pays contaminé.
Henri de la Guérie à Barcelone pour France Culture. Une délégation ukrainienne est en Floride en ce moment avec un objectif, finaliser un accord de paix sur la base d'un plan américain. Plan pointé du doigt par les Européens qui l'accusent d'être très favorable à la Russie. Demain, Volodymyr Zelensky sera d'ailleurs reçu à Paris par Emmanuel Macron. Les discussions qui s'accélèrent donc alors que les frappes russes se poursuivent. Cette nuit, une personne est morte et 11 ont été blessés près de Kiev. Qui ne s'est pas déjà fait avoir sur Internet? Ces arnaques courantes viennent peut-être d'Asie du Sud-Est, en Birmanie, au Cambodge ou encore au Laos. Des centres d'arnaques en ligne prolifèrent depuis la pandémie. La plupart sont tenus par des mafias chinoises et ça rapporte gros, plus de 40 milliards de dollars par an selon l'ONU. Une grande partie de ces centres se trouvent le long de la frontière thaïlandaise où s'est rendue notre correspondante Juliette Chénion.
À Mae Sot en Thaïlande, seule une rivière nous sépare de la Birmanie. On y aperçoit des dizaines de complexes entourés de barbelés et de gardes armés de fusils d'assaut. On entend aussi les générateurs d'électricité car derrière ces murs tournent de vastes usines à arnaques. Didi, 26 ans, y a passé un an et demi, 12 heures par jour, à tromper des internautes pour le compte de mafias chinoises et des deux milices locales birmanes.
On amenait les cibles à télécharger une fausse application de crypto-monnaie.
Didi gagnait 850 euros par mois, une fortune en Birmanie, et le seul moyen, d'après lui, de payer les soins médicaux de sa grand-mère.
C'est pas amusant du tout comme travail. C'est pas bien ce qu'on fait d'arnaquer. C'est pesant.
De plus en plus de travailleurs viennent de leur plein gré, mais d'autres sont retenus de force, originaires de Chine, d'Inde ou d'Afrique. Alice, une militante birmane, leur vient en aide. Sur son téléphone, des dizaines de photos de visages tuméfiés.
Ils subissent des tortures en continu. Ils souffrent beaucoup.
Comme elle, beaucoup restent sceptiques face aux récents raids lancés par la junte birmane. Certains parlent de mise en scène, loin de contenir ces centres de cyberescroquerie où travaillent plus de 100 000 personnes en Birmanie.
Juliette Chénion, en Thaïlande pour France Culture. La Thaïlande où le bilan s'alourdit, plus de 160 personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain. Des pluies diluviennes s'abattent depuis plusieurs jours sur le pays, ainsi qu'en Malaisie et en Indonésie. Près de 700 personnes ont perdu la vie dans la région. Après la Turquie, c'est au Liban que le pape se rend aujourd'hui. Deux jours fériés ont été déclarés dans le pays pour l'occasion. Ce voyage de Léon XIV, c'est le premier depuis son élection. Il est donc particulièrement scruté avec plusieurs messages. l'unité entre les chrétiens et l'importance de la diversité. Pour en parler, nous retrouvons Joseph Maïla. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Vous êtes professeur de géopolitique à l'ESSEC, ancien recteur de l'Université catholique de Paris. Si la première partie de ce voyage en Turquie avait été décidée par le pape François avant sa mort, Léon XIV a en revanche décidé de rajouter cette deuxième étape au Liban. Pourquoi ?
Écoutez, effectivement, c'est un voyage à double, une seule destination, le Proche-Orient, si l'on peut dire, et puis deux messages, deux articulations. L'une s'adresse aux chrétiens d'Orient orthodoxe, et donc on a remarqué en Turquie la visite qui a été rendue à Bartholomée, qui est le chef de l'Église orthodoxe, et à Istanbul. Et puis la seconde qui s'ouvre aujourd'hui, précisément, que vous signaliez tout à l'heure, et qui, elle, va concerner les chrétiens d'Orient à travers une visite faite au Liban, qui est le symbole, la dimension quasi emblématique de la coexistence difficile, il faut dire, entre chrétiens et musulmans au Proche-Orient. Mais au-delà du Liban, je crois que c'est toute la situation du Proche-Orient qui est portée par Léon XIV, que ce soit à Gaza, que ce soit la Cisjordanie, que ce soit la Syrie. Et bien sûr, le Liban.
Oui, alors justement, il y a un peu plus d'un an, il y avait un cessez-le-feu a été décidé au Liban, mais les frappes israéliennes se poursuivent toujours dans le sud du pays. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce pape dans la région ? Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement ?
Alors, je vais vous dire. D'abord, l'impact majeur qui est espéré par les Libanais c'est un impact émotionnel et symbolique. C'est un signe, un clin d'œil, une marque d'attention à l'égard d'un peuple éploré, éprouvé, comme vous venez de le dire, par un an de guerre continue, en dépit d'un cessez-le-feu qui a été proclamé. Je pense que ça, c'est la sollicitude, le soutien moral à une population qui souffre est un message en soi. Le second point qui me paraît important, et je pense que Léon XIV va insister là-dessus, c'est au fond se montrer soucieux des préoccupations du quotidien libanais au plan social, au plan économique. Je vous rappelle l'explosion du port au mois d'août 2020 et toute ces séquelles. Et le troisième objectif, c'est la coexistence islamo-chrétienne dans un contexte aujourd'hui de montée des radicalismes, que ce soit du côté d'Israël, que ce soit du côté de l'islam ou même au Liban. Donc il y a ce contexte-là. Alors pratiquement, politiquement, que peut faire un pape américain dans un contexte où l'Amérique, précisément, je veux dire, les États-Unis sont en train de mener le jeu diplomatique, beaucoup espèrent qu'une connexion se fera de ce point de vue. L'admiration que porte le président Trump, qui a été très fier de voir que c'est un pape américain des États-Unis, états-unien, donc qui a la charge de suprême au Vatican, peut permettre des rapprochements, mais sur un plan diplomatique très certainement, et j'allais dire seulement.
Et dans ce contexte très particulier au Proche-Orient, est-ce que la voix du pape peut porter aujourd'hui ?
Écoutez, nous sommes dans un climat, dans un contexte, dans une région du monde où le religieux porte, parle. Une voix religieuse, ce n'est pas quelque chose, une déclaration indifférente, insignifiante, qui va s'ajouter aux multiples déclarations de politique générale que l'on peut entendre ailleurs dans le monde. Donc la voix du pape porte, et il portera sur ce message de coexistence, sur la nécessité de faire la paix, d'arrêter la violence. Ce sont des paroles qui portent dans une région où la violence est quotidienne.
Une dernière question, ce voyage, c'est le premier du pape. Est-ce qu'on pourrait parler d'une sorte de test ?
On peut parler effectivement d'une sorte de test. Je ne sais pas si on peut mesurer la diplomatie vaticane à l'aune des tests des voyages du chef de l'Église catholique, mais effectivement, c'est une épreuve diplomatique, c'est un contact aussi avec les foules. N'oubliez pas que demain, au mardi, à Beyrouth, il y aura une messe œcuménique, comme on dit, où seront présentes toutes les confessions du Liban. Cette manière de s'adresser aux jeunes, aux autorités civiles, aux autorités diplomatiques, puisque le pape va rencontrer les ambassadeurs présents au Liban, c'est effectivement un voyage multidimensionnel. Et on peut dire effectivement, vous avez raison, que beaucoup de choses seront scrutées. Et ça peut être un test pour la diplomatie vaticane du nouveau pape.
Un très grand merci, Joseph Maella. Je rappelle que vous êtes professeur de géopolitique à l'ESSEC. Merci aussi à Loïse Guérin pour la préparation de cette interview. On le disait, les attaques israéliennes sont donc récurrentes au Liban. Elles sont quotidiennes à Gaza. L'armée israélienne a annoncé avoir tué 4 hommes qualifiés de terroristes dans le sud de l'enclave ce matin. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé une grâce officielle au président Isaac Herzog. Il estime que son procès pour corruption déchire le pays. Ils sont repérables à leur gilet orange. Les bénévoles de la Banque alimentaire sont postés aujourd'hui à la sortie des supermarchés un peu partout en France. C'est le dernier jour de la grande collecte hivernale. Habituellement, c'est l'équivalent de 20 millions de repas qui sont collectés. Et depuis vendredi, plus de 100 000 bénévoles sont mobilisés au supermarché Carrefour de Bassin en Savoie. Une dizaine de bénévoles se sont relayés tout le week-end, Léopold Picot.
Comme Adèle, gilet orange sur le dos, il réceptionne une boîte de conserve tout sourire.
Merci beaucoup.
Cet étudiant, déjà bénévole à la Croix-Rouge, connaît la réaction de ceux qui profiteront des dons de nourriture ou de produits d'hygiène.
En fait, moi, comme je suis vraiment vers la fin, on va dire, du parcours de la nourriture qu'on va collecter aujourd'hui, en fait, je peux voir vraiment les têtes des gens qui sont vraiment contents de pouvoir avoir ces denrées alimentaires. En fait, c'est magnifique.
Michel, elle, s'est engagée il y a 6 ans pendant une collecte à vélo de la Banque alimentaire à Chambéry.
Et puis après, petit à petit, ben, j'ai mis un doigt, puis on m'a pris un bras, et puis une épaule, et puis voilà. Donc maintenant, je m'occupe de tout ce qui est paperasserie. On se rend compte quand même qu'on est là pour aider la société, les gens nécessiteux. Ce qui me surprend le plus, c'est les jeunes, et puis ben, les femmes seules avec leurs enfants. Hein.
Pas un seul trou dans le planning de ces 3 jours de collecte. Le bénévole responsable du secteur de Bassin, Philippe Boréanis, est ravi.
Grosso modo, sur 3 jours, il nous faut 120 personnes. Donc j'ai été agréablement surpris parce que ça fait une semaine qu'on était complet. On a peut-être aussi prospecté peut-être un peu plus tôt en amont. Il faut quand même bien anticipé.
Cette année, les bénévoles de Bassin espèrent atteindre au moins les chiffres de l'an dernier. Ils avaient récolté 6,5 tonnes de dons.
Un reportage ici, Pays de Savoie. Le texte du budget de la Sécurité sociale a été rejeté hier par les députés en commission. Il retournera donc dans l'hémicycle mardi prochain. Les députés auront un peu plus d'une semaine pour débattre avant le vote prévu le 9 décembre prochain. Tour de cartes ou tour de passe-passe. À Blois se tient le premier festival de magie consacré au close-up. Ça s'appelle Sous vos yeux. Et pour cause, les performances se sont réalisées à quelques centimètres à peine du public, ce qui les rend d'autant plus intrigantes, Pierre Ropert.
Des cartes, des pièces ou encore des balles dans des gobelets. Pour le magicien et champion de France 2023 de close-up Jonathan Renoux, il suffit de quelques accessoires pour fasciner le public.
Le close-up, c'est la magie de proximité. Donc, c'est l'art de présenter des tours de magie sous les yeux des spectateurs. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de jeu de lumière particulier. C'est très participatif. Souvent, on commence par le close-up parce que c'est tout simplement la plus abordable techniquement et financièrement au départ.
La magie de proximité étant la plus accessible, elle est aussi celle dont on retrouve le plus facilement les secrets dévoilés sur TikTok ou sur Instagram, concède Arnaud Dallène, magicien et directeur de la Maison de la Magie à Blois.
Ça n'inquiète pas vraiment les magiciens professionnels dans le sens où vous avez beau voir là un truc sur Internet, quand vous voyez le magicien le réaliser pour de vrai devant vous, vous ne faites pas toujours le lien, puisqu'en fait après c'est la mise en scène, c'est la présentation qui va changer, et il suffit que la présentation soit bonne et l'effet est bien présent.
Mais en magie, le truc ne fait pas tout, assure de son côté Jonathan Renoux, qui utilise pour ses tours des objets qu'il a chinés en brocante.
Faire un tour de magie, c'est à la portée de tout le monde, en fait. C'est même plutôt facile, en fin de compte, en travaillant un petit peu. Ce qui est plus dur, en revanche, c'est de rendre ça intéressant, de rendre ça vraiment magique. Donc, le futur aujourd'hui de la magie en général va passer beaucoup par la mise en scène et la narration qu'on apporte.
Aujourd'hui, les magiciens de proximité travaillent surtout dans l'événementiel et animent des mariages ou des événements d'entreprise, par exemple. Avec le festival Sous vos yeux, Arnaud Dallène espère revenir aux origines du close-up lorsque, au début du XXe siècle, aux États-Unis, les spectateurs se pressaient devant devant les tables des magiciens pour découvrir leurs univers.
Pierre Repère. La météo, une perturbation traverse la France du sud-ouest au nord-est. Sur les pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie, c'est le retour des éclaircies. Les températures, elles, seront comprises entre 7 et 17 degrés. Il fera 9 degrés à Clermont-Ferrand et à Lyon, 10 degrés à Paris, 13 degrés à Brest et 17 à Ajaccio. C'est la fin de ce journal. Un grand merci à Brice Garcia pour la réalisation et Grégory Wallon à la technique.